La revolte a fait fini avec le peuple juif. Parce que le Christ, étant l'incarnation, je dirais, d'un certain visage de Dieu, beaucoup plus mystérieux que tout ce qu'on peut soupçonner à travers la raison naturelle, même religieuse, même la sensibilité religieuse normale, si j'ose dire, le peuple juif est tout de même une lente montée. L'histoire d'Israël est une montée progressive vers le pressentiment de ce visage de Dieu qui va s'incarner avec Jésus-Christ. C'est la montée d'un désir, l'histoire d'Israël. Ce désir qui va, en se rétrécissant quant au nombre de ceux qui lui restent fidèles, le petit reste d'Israël, mais qui va, en se creusant, en s'intensifiant, en devenant de plus en plus dévorant, et qui parvient à un paroxysme dans la personne de celle qui ramasse en elle toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire la Sainte Vierge. Elle est comme un Finistère, comme nous disons en France, un creuset, un entonnoir, si vous voulez, n'est-ce pas, dans lequel tout se concentre petit à petit, toute la longue attente des pères d'Israël arrive à une espèce de, pas d'exaspération, parce que la Sainte Vierge est calme et dans un océan de paix, mais de paroxysme insoutenable, tel que Dieu ne pourra plus lui résister et qu'il enverra son Fils en réponse au désir de Marie qui résume en elle tous les désirs d'Israël. Alors ça, il faut tout de même que nous regardions un peu ce désir du visage de Dieu, ce que j'ai appelé un jour le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, le visage inconnu de Dieu, ce désir dans le cœur d'Israël. Alors il faut revenir un peu sur cette histoire. Au fond, il y a trois parties dans l'histoire du peuple d'Israël, très sommairement. Il y a ce que j'appellerais la préhistoire, celle où le peuple d'Israël n'était encore qu'un clan, le clan d'Abraham, une famille en somme. Et c'est l'histoire de cette famille, la préhistoire d'Israël. Et c'est la partie qui, pour mon cœur, je l'avoue, mis à part peut-être la traversée du désert, c'est celle qui est la plus éloquente. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 enfants de Jacob, Joseph. Et alors à ce moment-là, se réalise la promesse faite à Abraham, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Le peuple d'Israël se met à pulluler en Égypte, mais dans des conditions qui n'étaient pas celles que Abraham aurait pu rêver, mais peut-être celles qu'il a pu soupçonner au cours d'un rêve mystérieux et douloureux qu'il fit peu après les premières promesses de Dieu, et où il y eut des larmes et du sang et une angoisse qui a oppressé le cœur d'Abraham et qu'il n'a pas bien comprise. C'était le pressentiment des souffrances de son peuple en Égypte au temps où il est devenu un peuple. Et la deuxième partie de cette histoire, alors c'est celle où le prophétisme qui caractérise toute la famille d'Abraham, sur laquelle nous allons revenir un peu, alors le prophétisme est tout entier et est la seule guide de ce peuple. Moïse, d'abord le plus grand des prophètes, arrache ce peuple à la servitude égyptienne, lui fait traverser la mer Rouge, ce qui est magnifique, lui fait traverser le désert, ce qui est moins drôle, et il le mène aux portes de la terre promise. Puis d'autres prophètes succèdent à Moïse. C'est une période plus confuse qu'on appelle celle des juges, mettons des prophètes ayant le pouvoir, au fond, les juges, c'est un peu ça. Ce sont des prophètes qui se relaient pour diriger les armées, diriger la conquête de la terre promise et commencer à organiser le peuple d'Israël. Et ça va jusqu'à Samuel, ce moment douloureux entre tous dont je vous ai déjà parlé, et où Israël refuse de continuer à être dirigé par des prophètes et où il veut être dirigé par des rois comme tout le monde. Et à partir de ce moment-là, le prophétisme continue en Israël, mais alors ça devient presque immanquablement un prophétisme persécuté. Et il y a vraiment les deux pouvoirs, temporel et spirituel, à partir de Saül, le premier roi d'Israël. Le pouvoir temporel et puis les prophètes qui continuent à prophétiser.